Sport. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Coup d'envoi d'un mondial sport encore très fourni ce soir avec d'abord la finale dames de l'US Open de tennis. En fil rouge dans l'émission, on se jabeur la Tunisienne mal partie face à la numéro mondiale Iga Świątek. Victor Misistrano sera avec nous dès la fin du match. Goodbye Her Majesty, Elisabeth II s'en est allée à 96 ans. Elle qui a notamment vécu le seul moment de bonheur à ce jour du football anglais de sélection, le sacre à la Coupe du Monde 1966. Pour autant, le ballon rond n'aura jamais été son sport préféré, nous expliquera Philippe Auclair. Le foot sur le terrain avec la Super Coupe d'Afrique remportée tout à l'heure par Berkane. Le point sur le premier tour préliminaire aller de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. La question du mode de transport des clubs européens pour leurs déplacements en question, exemple en Espagne. Et puis nous ferons escale au Cameroun, comme vient de le faire le trophée de la Coupe du Monde. Autre mondial, celui de rugby à 7 en ce moment au Cap. On fera plus ample connaissance avec les joueuses malgaches qui font leur premier pas dans cette compétition. Enfin, la reprise de la NFL, le championnat de football américain et son inusable star Tom Brady qui a finalement décidé à 45 ans de rempiler avec son équipe de Tampa Bay.
Bobby Moore led England up to the Royal Box to receive the Jules Rimet Cup and the winners' medals.
30 juillet 1966, jour de gloire de l'Angleterre pour l'éternité. La Coupe du Monde lui revient enfin après sa victoire sur la RFA. Ce trophée Jules Rimet, le capitaine Bobby Moore le reçoit des mains d'Elisabeth II, alors sur le trône depuis plus de 14 ans. Une souveraine qui, par sa fonction, était la présidente d'honneur de plusieurs fédérations sportives anglaises et la représentante de la monarchie dans les grands événements internationaux. Parfois de manière originale, personne n'a oublié en effet sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012. Cette séquence filmée avec le James Bond Daniel Craig qui saute sur le stade olympique avec une sosie de la reine. Sa disparition jeudi à l'âge de 96 ans a évidemment ému le monde du sport. Les hommages des champions britanniques et internationaux ont été très nombreux. Mais quelle était sa relation réelle avec le sport et le football en particulier? On va en parler avec notre correspondant qu'on vient d'entendre déjà un tout petit peu, Philippe Auclair. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Alors Elisabeth II n'a jamais caché son amour pour un sport, c'est pas le football, c'est l'équitation. Le foot plus populaire, ça n'était pas vraiment, pour employer une expression de circonstance, sa tasse de thé.
Pas vraiment, disons que elle supportait le football comme toutes les tâches qui lui étaient confiées en sa qualité de monarque. Elle l'accomplissait avec beaucoup de bonne grâce, de bonne volonté. Elle allait relativement régulièrement au final de la FA Cup, en tout cas au début de son règne. Vous parliez également de la finale de la Coupe du Monde de 1966, mais en fait, sa dernière finale de la FA Cup, c'était en 1976. Et depuis, en fait, elle n'avait fréquenté Wembley, je crois, qu'une seule fois. C'était pour remettre le trophée de l'Euro 1996 à l'Allemagne. Mais sa relation avec le football était une relation, je dirais, de circonstances, de respect, certainement partagé, mais pas d'amour. Pas du tout comme par exemple son petit-fils William, dont on sait qu'il fait partie de la FA et qui, quant à lui, est un supporter d'Aston Villa. Là, pas du tout dans le cadre de Sa Majesté, qui, comme vous le disiez, était en effet une fan d'équitation et de hippisme, beaucoup plus que de football, de cricket ou de tennis.
Elisabeth II a beau ne pas être une fan inconditionnelle de foot, Philippe, ça ne l'a pas empêché d'honorer de grandes figures du ballon rond anglais pendant son règne.
Absolument, et notamment en faisant quelques-uns chevaliers. Vous parliez de Bobby Moore, on peut également parler d'un autre Bobby Charlton, qui lui aussi a été fait chevalier par la reine. On peut parler de Sir Alex Ferguson, rien de moins. Sans parler de tous ces footballeurs qui ont été faits membres de l'ordre de l'Empire britannique à différents grades. Et de ce côté-là également, c'est toujours avec beaucoup de grâce, puisque pour reprendre un mot utilisé dans l'hymne anglais, que Sa Majesté s'est pliée à cette tâche. Encore une fois, avec un certain humour, et en sachant également se mettre, je pense, au diapason des gens qu'elle avait autour d'elle, ce qui est une des qualités d'ailleurs que tout le monde lui a reconnu dans les très nombreux hommages dans le monde du football et le monde du sport généralement.
Et puis elle a même accordé un privilège unique à un club anglais il y a une quinzaine d'années, c'est Arsenal, Arsène Wenger à l'époque, et les joueurs ont été invités à Buckingham Palace. Dans quelles circonstances?
Écoutez, si jamais on croit les supporters des Gunners, c'est parce que apparemment Sa Majesté était une fan secrète d'Arsenal. Et la raison pour cela, c'était que sa mère, la reine-mère Mary, était quant à elle, et cela on le sait, une supportrice donc de Arsenal FC, et que c'est un petit peu pour honorer une tradition familiale en quelque sorte qu'elle a accordé ce privilège aux Gunners, un privilège qu'elle n'a accordé à aucune autre équipe en Angleterre, en Écosse, en Irlande ou au Pays de Galles.
Arsenal qui, comme tous les autres clubs, est au repos forcé ce week-end après la décision des responsables de la Premier League de reporter tous les matchs pour respecter le deuil de la famille royale. Choix pas toujours très bien compris outre-Manche apparemment.
Choix même très critiqué. Très critiqué à plusieurs raisons. D'une part, le football est le seul sport à avoir pris ce genre de décision, puisque par exemple le rugby, sport préféré de la princesse Anne au passage, a décidé de continuer son programme. On ne comprend pas vraiment comment dans un calendrier hyper chargé, alors qu'on a une Coupe du Monde également qui se profile à l'horizon et qui va également créer de gros problèmes logistiques pour les clubs, on se demande comment il se fait que le football anglais ait décidé de repousser cette journée. Et très honnêtement, on se dit, ils voulaient que l'on perçoive leur action comme étant une action respectueuse, etc. S'ils ne l'avaient pas fait, qu'aurait-on dit ? Eh bien, on aurait dit « c'est normal ». Et le problème, Christophe, c'est que ce n'est pas que ce week-end qui est en question. C'est peut-être également le week-end prochain. Parce que là, en effet, pour des raisons de sécurité, puisque nous avons les funérailles nationales d'Elisabeth II, il va y avoir donc un dispositif de sécurité absolument, j'allais dire sans précédent, mais extraordinairement important. Et du coup, les forces de sécurité ne seront plus disponibles, en particulier à Londres, pour assurer justement le contrôle des matchs qui sont censés se disputer. Et du coup, on se demande, mais est-ce que ce ne sont pas deux journées qui vont devoir être repoussées ? Et je peux vous garantir que ça fait beaucoup, beaucoup jaser en Angleterre et qu'on se dit que là, c'était sans doute pousser le respect un petit peu trop loin, en oubliant aussi de respecter les supporters qui, par exemple, avaient réservé leur billet de train très longtemps à l'avance, voire leurs hôtels, et qui tout d'un coup vont devoir revoir tous leurs plans.
Merci beaucoup, Philippe Auclair, en ligne de Londres. Les funérailles d'Elisabeth II auront lieu le 19 septembre. Passage express par New York Flushing Meadows pour la finale de l'US Open. Dame entre Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, et Ons Jabeur. Swiatek avait largement remporté la première manche. 6 jeux à 2, c'est beaucoup plus serré dans la seconde. 4 jeux partout entre les deux jeunes femmes. Pour l'instant, Swiatek est au service. On revient au football avec la 6e journée de Bundesliga, notamment parmi les résultats du jour. Le Bayern Munich accroché à domicile par Stuttgart, 2 partout sur un pénalty du VfB transformé à la dernière minute par le Guinéen Sirou Guirassy. En Ligue 1, Marseille vient de battre Lille 2-1. Dans l'après-midi, le PSG avait difficilement dominé Brest 1-0 au Parc des Princes à domicile. Donc, on ne s'est donc pas préoccupé cette fois du moyen de transport utilisé par les joueurs parisiens pour arriver au stade, contrairement au week-end dernier où le déplacement à Nantes en avion avait créé la fameuse polémique du char à voile, mot prononcé par Christophe Galtier, l'entraîneur. Propos maladroit, en lien avec une problématique pourtant réelle, la sobriété énergétique. Le rail plutôt que les airs pour un bilan carbone plus acceptable. Certains clubs essaient de faire des efforts dans ce domaine, notamment en Espagne, mais c'est encore très timide, comme va nous l'expliquer notre correspondant Pierre Chaperon. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Christophe.
Pierre, en Espagne, des accords existent entre la société de chemin de fer espagnole, la RENFE, et les clubs depuis une vingtaine d'années, mais aucun n'utilise le train en ce moment.
C'est ça, à y regarder de plus près. C'est dommage puisque c'est un accord gagnant-gagnant. Au-delà du geste pour l'environnement, le club a des tarifs préférentiels et la RENFE, elle, eh bien, elle bénéficie d'une visibilité gratuite sur les panneaux publicitaires dans les stades. Chaque année, ces accords sont négociés. L'idée, c'est que le club privatise 2 à 3 wagons. En revanche, c'est un train normal. On ne bouscule pas les horaires.
Le Betis Séville est la seule à avoir renouvelé son partenariat avec la RENFE.
Oui, en fait, le Betis se présente comme un club très écolo, très vert, ça tombe bien. C'est la couleur de son maillot. Il y a plein de projets mis en place, dont notamment cet accord qui a été renouvelé. Ça concerne toutes les catégories du club, les hommes, les femmes, le foot, le basket, sauf qu'ils ont utilisé l'avion la semaine dernière pour faire Séville-Madrid, pour affronter le Real. Avec un coup d'envoi à 16h15, lors d'une conférence de presse sur la santé économique du club, le président Ángel Haro a précisé pourquoi le Betis privilégie l'avion.
L'environnement et le développement durable, comme vous le savez, font partie de nos objectifs de responsabilité sociétale d'entreprise. Nous sommes très engagés là-dessus. Alors c'est vrai qu'on est un peu sorti de notre feuille de route parce que le Covid nous a quasiment obligés à prendre l'avion. Aujourd'hui encore, on voyage en avion malgré l'accord avec la RENFE, mais petit à petit, on va réduire à nouveau notre empreinte carbone conformément à l'objectif que nous nous sommes fixé avec notre fondation du Real Betis Balompié.
Pas de date de retour au train donc, à noter que 5 clubs dont Villarreal sont en négociation pour cet accord avec la RENFE. En revanche, pas de nouvelles des 3 gros, le Real, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone.
Alors est-ce que cette situation va-t-elle changer ?
Comme pour tout le monde, il faut changer ses habitudes, mais pour les gros clubs, c'est aussi une question de récupération important quand on joue tous les trois jours. Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, lui, s'est dit prêt à changer la manière de faire si l'État et la région le lui demandaient. Écoutez Adrián Fernández, expert en mobilité et porte-parole de Greenpeace Espagne, il attend plus de la part des clubs.
Les clubs devraient donner l'exemple sans que personne ait besoin de leur dire. Mais l'administration publique devrait aussi prendre des mesures pour que cela ne concerne pas uniquement les clubs de football, mais que cela touche toutes les entreprises et organisations. C'est assez simple ce que l'on demande à toutes les équipes. Ce n'est pas insurmontable. Nous pensons que ceux qui ont le plus d'argent sont ceux qui doivent faire le plus. Et les clubs de football, comme les grandes entreprises ou les gens connus, ont un style de vie qui, dans beaucoup de cas, est totalement incompatible avec ce que sont en train de demander les instituts scientifiques. C'est-à-dire que l'effort doit être commun, doit être fait ensemble, mais il ne doit pas être le même pour tous. Celui qui a le plus doit faire le plus grand effort.
Depuis la mi-août, dans un contexte d'inflation, l'Espagne fait la chasse au gaspillage, restrictions sur les températures des climatiseurs et le chauffage dans plusieurs établissements publics, réduction du prix des transports en commun, gratuité pour les trains de banlieue. Reste à savoir si les clubs vont prendre des mesures, mais au pays du football roi, ce n'est pas gagné.
Merci beaucoup Pierre Chaperon, en ligne de Madrid. La séquence africaine de Mondial Sport, elle nous emmène d'abord en direct au Maroc pour la Super Coupe d'Afrique, traditionnelle levée de rideau de la saison continentale des clubs, avec un match 100% local, si l'on peut dire, puisque les équipes du Royaume avaient fait main basse sur les deux trophées de la CAF la saison dernière, la Ligue des Champions au Wydad Casablanca et la Coupe de la Confédération à la Renaissance de Berkane. Duel au sommet ce soir à Rabat, suivi par Anas Yacine. Bonsoir Anas.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous.
Et c'est Berkane qui l'emporte 2-0 finalement.
Tout à fait, c'est une petite surprise parce que techniquement, le match n'a pas atteint des sommets, c'est normal, il y a l'enjeu, aucune équipe n'a voulu prendre l'initiative et puis c'est le début de la saison, les joueurs des deux clubs ont deux matchs officiels seulement dans les jambes du coup. Eh bien, ce n'était pas un engagement à 100%, mais la Renaissance de Berkane a été solide défensivement et efficace offensivement. Un but par mi-temps, le premier signé l'attaquant Al-Bahri, de la tête. Le jeu aérien, c'est le point fort de la Renaissance de Berkane, une équipe athlétique. Et puis le deuxième sur penalty transformé par le milieu El Mouden, ancien joueur du Wydad. Le Wydad, justement, est passé à côté de son match. Le vainqueur de la Ligue des Champions a rarement été dangereux, 2-3 fois maximum au cours de cette rencontre. Le WAC a perdu sa troisième Supercoupe après s'être incliné par le passé face à l'Africa Sport. Et le Zamalek, la RSB, elle, s'adjuge sa première Supercoupe, le troisième trophée africain après deux Coupes de la CAF et le cinquième titre dans la vitrine du club avec deux Coupes du Trône, Christophe.
Merci beaucoup, Anas Yacine, en direct du Maroc, donc pour cette victoire de Berkane dans la Supercoupe d'Afrique. 2-0, du foot et encore du foot sur le continent ce soir. Pas une, pas deux, mais trois compétitions se jouent en même temps ce soir. Outre la Supercoupe d'Afrique, il y avait le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine. Bonsoir, monsieur Sofiane Amazian.
Bonsoir, monsieur Christophe Diremzian. Bonsoir à tous.
Une journée qui a réservé son lot de surprises dans ce premier tour préliminaire donc de la Ligue des Champions avec ce match. D'abord entre le Real de Bangui et les Vipers, un petit peu bizarre, on va dire.
Exactement, une rencontre d'apparence normale, Christophe, si ce n'est que le match a été délocalisé à Brazzaville, sauf que les Centrafricains, faute de financement, sont partis par petits groupes direction l'aéroport. Le match a d'abord été reporté pour cause de retard, puis s'est finalement joué à 11 contre 8 joueurs du Real de Bangui. L'issue du match ne fait donc aucun doute. Score final 3-0 pour les Ougandais de Vipers. Les Centrafricains ont tenu bien tenu jusqu'au bout du temps additionnel de la première période, mais la supériorité numérique des Vipers a fait la différence. Lumala, Yiga puis Mubiru ont scellé la victoire des visiteurs.
Parmi les autres résultats de la soirée, l'AS Nigelec qui remporte la première manche face au Sohar de Guinée.
Et l'AS Nigelec de Niamey a pris une bonne option ce samedi au stade général Séni Kountché en battant 2-1 le club guinéen de la Sohar de Conakry. Doublé côté nigérien de Boubacar Djibrila Goumey, la réaction de l'entraîneur des Nigériens, Brata Erjibo au micro d'Ousmane Keita.
Une victoire c'est bien, mais je ne suis pas satisfait du score. Le nombre de buts. Des buts incroyablement ratés. Je ne peux pas admettre ça. Je peux dire que c'est un problème de jeunesse, d'expérience. On n'arrive pas à scorer beaucoup. On domine, mais à la fin c'est un but ou deux buts maximum.
C'est dommage. Je pense que moi, si je tire la leçon et on fera mieux au prochain match. C'est des jeunes, c'est toute première fois qu'ils ont fait cette compétition. Ils ne se retrouvent pas. Heureusement que c'est un match à domicile. Ils arrivent à avoir un peu de réflexes. Ils ont manqué de concentration.
À noter le match nul 2-2 du stade Mandji de Port-Gentil face à Plateau United, défaite de l'AS Auto Doyo face à Cape Town 2-0, même score entre Mongomo et Djoliba.
Côté Coupe de la Confédération, on joue également le premier tour préliminaire, les Camerounais de Bamenda tenus en échec sur leur pelouse.
Score final 1-2 contre les Malgaches d'Algeco, plus match nul également entre l'AS Kigali et l'Assas 0-0, victoire du Ferroviario Beira face aux Tchadiens de l'AS Santé d'Abéché 2-1 et des Guinéens Asganti contre les Nouakchott Kings 2-0.
Merci beaucoup Sofiane. Gagner la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération en fin de saison, c'est bien évidemment, mais c'est sans commune mesure avec le fait de remporter un jour la Coupe du Monde. Ce trophée si convoité remis en jeu à partir du 20 novembre à Doha. D'ici là, il continue de voyager à travers le monde comme à chaque fois qu'une édition approche. Jeudi, vendredi, il a fait escale à Yaoundé pour tenter de s'offrir à la vue de milliers de Camerounais désireux de garder de l'objet mythique un souvenir impérissable. Reportage de Joël Wayne.
C'est un accueil chaleureux avec des fanfares, des trompettes et des tam-tams qui a été réservé jeudi dernier au trophée de la Coupe du Monde à l'aéroport international de Yaoundé. Plus de 1000 personnes ont fait le déplacement en espérant voir avant l'exposition officielle ce trophée constitué de 18 carats d'or pur. Arnold fait partie des nombreux curieux.
Nous sommes un peu déçus parce que nous n'avons pas vraiment vu véritablement le trophée, donc je ne peux pas vraiment vous dire comment le trophée était. Bon, on attend de voir la télé.
L'ex-footballeur français David Trezeguet, qui accompagne le trophée, est émerveillé par la mobilisation camerounaise.
Je retrouve, depuis qu'on a commencé, le continent africain, qu'il soit au Ghana, après le Sénégal, et ici au Cameroun, la folie totale, l'envie, l'émotion, l'envie de participer à cette Coupe du Monde, que ça va être unique au Qatar. Ramener la Coupe du Monde à vous, ça fait très plaisir.
En 1990, le Cameroun a été la première nation africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. L'ancien lion indomptable Jules-Denis Onana était de cette expédition.
Parler de Coupe du Monde, ça nous renvoie toujours à un exploit d'un été italien. J'ai eu l'honneur de faire partie de cette grande équipe avec des immenses icônes du football africain, Milan, Nkono, Bell, Koundé, Omambique. Que le trophée soit au Cameroun aujourd'hui, c'est un immense plaisir pour nous. Si ça peut porter bonheur à l'équipe qui va défendre nos couleurs au Qatar, pourquoi pas.
C'est finalement vendredi au Palais des Sports de Yaoundé que des milliers de Camerounais auront la possibilité de s'immortaliser avec le trophée de la Coupe du Monde. Fabrice a dû parcourir 2000 km et voyager pendant 2 jours pour réaliser son rêve.
Je suis là uniquement pour voir le trophée de la Coupe du Monde pour ma première fois. Cela n'arrive qu'une seule fois et j'ai donc saisi l'occasion. Je sors de très loin, je ne suis pas de Yaoundé, je sors de la région de l'extrême nord, plus précisément à Maroua.
L'attente a également été longue pour Ernest. Mais il est satisfait au bout du compte.
J'ai attendu 2h30 pour voir le trophée. J'ai vraiment adoré. Et j'espère que le trophée va rester au pays.
Cynthia est également heureuse.
C'était trop bien. Je suis très contente. Si jamais la coupe ne revient pas au Cameroun, j'aurais quand même dit que ok, je me suis filmée avec.
Le Cameroun accueille ainsi pour la 3e fois de son histoire le trophée de la Coupe du Monde. Après le pays des lions indomptables, la prochaine destination sera le Maroc, autre pays qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Dans un peu moins d'un an, c'est une autre Coupe du Monde, celle de rugby, qui démarrera en France dans sa version A15. En attendant, c'est le mondial A7, masculin et féminin, simultanément, qui mobilise en ce moment l'attention du monde de l'Ovalie. Un court mais dense rendez-vous de 3 jours au Cap, en Afrique du Sud. 40 nations au départ. Et parmi elles, chez les dames, les novices de Madagascar, les Maggies, forcément en apprentissage face à l'élite de la discipline, mais fiers de mettre la grande île enfin dans la lumière dans cette discipline. Notre correspondant Romain Chanson les a suivis.
Eyes open. Thank you.
Des photographes, des caméras, des journalistes, l'attention médiatique est au maximum. Nous sommes mercredi et c'est l'heure de la photo de famille pour les 40 capitaines des équipes de rugby avec la magnifique montagne de la table en arrière-plan et le maillot vert de Madagascar qui est sur le cliché porté par Sarindra Saoundra-Malala, la capitaine.
C'est mon fierté et aussi une fierté de notre pays. Surtout ma famille.
C'est la première fois que l'équipe féminine de Madagascar, les Maquis, participe à la Coupe du Monde et elle représente le continent avec les Sud-Africaines. Leur participation favorise la diversité dans le rugby, estime Jade Ouloutoulé, capitaine de l'équipe de France, vice-championne du monde en 2018.
C'est sympa de pouvoir aussi voir des nouvelles nations et des nations qui peuvent émerger dans le rugby à 7 et de leur laisser l'opportunité et la chance de pouvoir aussi venir se confronter à ce qu'ils peuvent se faire de mieux dans le rugby. Donc c'est une chance pour elles et c'est très bien de voir le rugby qui grandit comme ça.
Nous sommes vendredi. Dans le stade, le public se lève pour respecter une minute de silence en hommage à la reine d'Angleterre dont la mort a été annoncée la veille. La Coupe du Monde peut maintenant commencer. Dans les tribunes, quelques supporters malgaches sont venus soutenir leur équipe, comme Valérie Renard.
Alors, je suis venue avec mon mari, Philippe, ma fille, Léa, plusieurs amis de la communauté malgache, des jeunes étudiants, et puis des jeunes qui ont une famille qui habite ici aussi. Il y en a d'autres ailleurs, mais je ne sais pas où ils sont. C'est une grande opportunité pour Madagascar, pour les femmes. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très grand. Donc voilà, on peut pas ne pas être là. Je suis allée les rencontrer mercredi, juste pour leur souhaiter la bienvenue et puis bonne chance pour le premier match qui va être contre l'Australie, qui ne va pas être très facile.
Un gros morceau, ces Australiennes parmi les favorites du tournoi. Elles infligent une défaite 48-0 au Maquis. Mais pas de quoi décourager Tsinzu Rakotonarivo, un supporter.
Vous êtes venus ici pour des résultats ou juste pour les soutenir?
Les deux à la fois. Il faut espérer. Oui, allez faire Maquis de Madagascar.
Au deuxième jour, la matinée commence avec un match contre les Espagnols. Harcelés dans leur zone, les Malgaches se contentent de défendre avant de craquer, défaite 12-0. Dans les vestiaires, les joueuses ont le visage fermé, mais elles gardent la tête haute, comme fait la Naïna Marie-Janine Rakotoarison.
C'est la première fois que nous participons au mondial, mais on va améliorer et beaucoup d'expérience à ce match.
Les filles ne s'épanchent pas trop sur les raisons de leurs difficultés, mais leur préparateur physique et entraîneur adjoint, Zakar Ravelonen aussi, a sa petite idée.
Ce sont des guerrières, elles sont toujours prêtes. Mais vous savez, c'est difficile. On joue souvent l'hiver à Madagascar, au rugby. Et l'hiver, le temps il est plutôt sec. Nos terrains sont très secs. Vous voyez, si vous regardez les crampons, on utilise des moulets extrêmement courts. Mais là, par exemple, ce matin, elles étaient un peu surprises. Le gazon était humide. Le ballon glissant, ça fait partie de l'apprentissage du très haut niveau. L'Afrique manque de rencontres internationales et c'est ça qui nous pose des soucis. De toute façon, on lâche rien, nous on lâche rien. On lâche rien, ne vous inquiétez pas.
Illustration avec le match contre la Chine, malgré une défaite 36-5, Madagascar inscrit le premier essai de son histoire en Coupe du Monde de rugby à 7. Le coach Adjassoa André Amaro a retrouvé le sourire.
Je suis très très ravi parce que Madagascar a eu un essai dans la Coupe du Monde. C'est le premier dans l'histoire, c'est bien.
Au retour sur l'île, le coach aura une exigence à adresser à sa fédération. Il veut jouer davantage de matchs amicaux avec des équipes internationales pour se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Au Cap, Romain Chanson, RFI.
Les Malgaches qui vont terminer au mieux 15e de ce mondial. Il leur reste un dernier match de classement à disputer demain contre la Colombie.
Mondial Sport, Christophe Diremzian.
Ne cherchez pas ce qu'a occupé les conversations des passionnés de sport aux États-Unis cette semaine. C'est la reprise de la NFL, le championnat de football américain. 5 mois de compétition pour tenter de participer à la grand-messe du Super Bowl le 12 février prochain à Phoenix, dans l'Arizona. Tradition oblige, ce sont les Rams de Los Angeles, tenants du titre, qui ont fait l'ouverture de la saison contre les Bills du Buffalo. Entrée en matière ratée pour la franchise californienne, battue 31-10 par un adversaire déjà chouchou des pronostiqueurs parmi les 32 équipes du plateau. Grand angle sur cette nouvelle saison avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala.
Sept longs mois patientés avant de retrouver cette petite musique de la NFL à la télévision. Chaque année, c'est la même torture pour les dizaines de millions d'Américains accros au sport le plus populaire du pays. La draft et les transferts comblent un peu leur manque pendant une intersaison interminable. Intersaison marquée cette année par le feuilleton Tom Brady.
We begin with breaking news here on NFL Network. Quarterback Tom Brady is officially retiring.
Le meilleur joueur de tous les temps a annoncé juste avant le Super Bowl qu'il laissait le casque et le reste au vestiaire avant de changer d'avis 6 semaines plus tard. L'homme aux 7 bagues de champion s'est offert une nouvelle péripétie. Il a pris une pause de 11 jours en pleine préparation au mois d'août Personne n'a encore compris pourquoi.
C'est personnel, tout le monde a des problèmes à gérer. On a tous des défis uniques à affronter. J'ai 45 ans, mec. Il s'en passe des trucs à cet âge-là.
Mais au début d'une saison, toute franchise, guidée par Tom Brady, vieux ou pas, a sa place sur la liste des favoris. Pas tout en haut cette fois, trop de blessés dans l'effectif des Bucks de Tampa Bay.
And the 2021 AP most valuable player is Aaron Rodgers.
Un autre vétéran refuse de s'éloigner au soleil couchant. Mais à 38 ans, Aaron Rodgers a gagné les deux derniers titres de MVP. Alors pourquoi s'arrêter là? Les Green Bay Packers ont prolongé son contrat de 3 ans pour 150 millions de dollars.
À chaque fois, toutes les autres équipes de notre division, la NFC Nord, et leurs fans se disent « ça y est, c'est notre tour de gagner la division ». Mais ça n'est pas arrivé souvent depuis que je joue ici.
Confiant, Aaron Rodgers, pourtant privé désormais de son receveur favori, Davante Adams, parti aux Raiders de Las Vegas. 20 ans que les supporters des Raiders, réputés pour leur passion, finissent déçus. Avec Adams, peut-être le meilleur receveur de la ligue, et Derek Carr, déjà son quarterback à l'université, ils pourraient voir leur équipe enfin exister en play-off. Las Vegas va vivre un gros test d'entrée contre les Chargers de Los Angeles, programmé cette saison pour le Super Bowl. Davante Adams.
On n'a pas encore joué un vrai match tous ensemble, on ne peut donc pas avoir encore d'attente. C'est injuste pour l'équipe et pour soi-même de se dire si tôt on veut gagner tant de matchs ou tant de yards sur la saison. Ça n'est pas ça ce qui compte. Le plus important, c'est de jouer en équipe et d'optimiser notre potentiel.
Autre incontournable d'une intersaison NFL, un jeune quarterback doit faire le buzz. En 2022, c'est tombé sur Trey Lance. À 22 ans, il va connaître sa deuxième saison NFL, mais sa première en tant que titulaire au sein des très ambitieux San Francisco 49ers. Alors attention à la pression, prévient le journaliste Adam Schefter sur ESPN.
Les gens doivent comprendre qu'il va falloir du temps à Trey Lance pour devenir le quarterback que les 49ers pensent qu'il peut devenir et pour lequel ils ont investi autant de capital. Il n'a pas beaucoup joué à l'université et ce gars-là a une grande marge de progression.
Lance a été comparé à Lamar Jackson, le quarterback des Baltimore Ravens, pour son côté ultra-athlétique. MVP de la saison 2019, Jackson, justement, est trop doué pour ne pas faire de son équipe une candidate au trophée Vince Lombardi. Mais il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la franchise sur une prolongation de contrat. Il sera libre en fin de saison. L'incertitude pèsera peut-être sur ses performances. Touchdown, Kansas City. Patrick Mahomes n'a pas de souci à se faire pour son contrat, lui. La star de Kansas City, champion 2020, vaut un demi-milliard de dollars. À ce tarif, les Chiefs ont forcément le droit d'espérer un ticket pour le Super Bowl le 12 février prochain à Phoenix. Et puis l'intersaison de NFL n'en est pas une sans un scandale. Deshaun Watson, le talentueux quarterback de Houston, a été recruté à prix d'or par Cleveland. Les plaintes de dizaines de masseuses pour son comportement inapproprié n'ont pas retenu les Browns. Ils devront tout de même faire sans leur nouvelle star pour l'essentiel de la saison. Watson a été suspendu 11 matchs par la Ligue. Le Canal Los Angeles RFI.
Voilà l'épilogue de cette saison de NFL. Ça sera donc le 12 février prochain, le Super Bowl à Phoenix dans l'Arizona. Il reste 45 secondes pour vous faire un dernier point sur la finale dames de l'US Open de tennis à Flushing Meadows. Et pour l'instant, c'est toujours Iga Świątek qui mène dans ce match après 1h42 minutes de jeu. La numéro 1 mondiale polonaise qui avait remporté la première manche sur le score de 6 jeux à 2. Duel beaucoup plus serré dans la seconde manche. Świątek mène 6 jeux à 5, mais Jabeur est au service pour tenter de recoller à 6 jeux partout et tenter d'obtenir un tie-break qui permettrait à Ons Jabeur d'y croire encore. Et c'est à l'instant ce qu'elle vient d'obtenir. 6 jeux partout donc pour l'instant dans cette deuxième manche. Merci beaucoup pour ce Mondial Sport à la réalisation assurée par Valentin Vaner et Laurent Philippot. On se retrouve demain, même heure, même endroit, dans un instant, 24h en France. Très bonne journée.